Micro ouvert sur Marmite FM.
Venez faire découvrir vos projets, votre association, vos événements.
Le micro est ouvert, vous avez la parole.
Donc en fait, c'est une exposition presque triple parce que...
Le principe, c'est qu'on va mettre des poètes de la musique et...
Et voilà, c'est du jeu de rôle grandeur nature, c'est une enquête policière.
40 personnes qui ont trouvé vraiment l'idée très intéressante.
C'est pour le plaisir du jeu et du temps partagé ensemble.
Micro ouvert sur Marmite FM.
Nouradine Anne.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite FM 88.4, un nouveau numéro de votre émission Micro Ouvert. Aujourd'hui, nous recevons des trappistes qui sont allés en voyage humanitaire en Inde entre le 3 et le 17 août dernier. Ils font partie d'un groupe de 14 jeunes trappistes de 18 à 25 ans qui ont participé à un chantier de volontariat mis en place par la ville de Trappe. Il y a 4 d'entre eux qui sont avec nous aujourd'hui pour nous raconter leur périple et ils sont accompagnés d'un des animateurs qui était avec eux pendant ce voyage. Bonjour tout le monde.
Bonjour. Bonjour.
Alors, on va faire un petit tour de table, hein, de présentation d'abord. Il y a Oriane, Louisa, Yacine et Bilal. Alors ça, ce sont les jeunes qui sont partis et puis Mara qui les accompagne. Bon, on va faire dans l'ordre, hein, de la table. On va commencer avec Louisa. Bonjour Louisa.
Bonjour. Alors moi, c'est Louisa, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en BTS comptabilité en alternance, ouais. Donc à Trappe. Et j'habite à Trappe, voilà.
Voilà, donc ça c'est pour Louisa, merci. Oriane.
Bonjour, donc moi je m'appelle Oriane. Je suis aujourd'hui en recherche d'emploi après avoir fait une licence en environnement et aménagement paysager.
Voilà, donc on pourra faire une petite annonce pour voilà, une recherche d'emploi tout à l'heure. Notre accompagnateur, Mara.
Bonjour, bah, moi je suis Mara, l'animateur qui a accompagné les jeunes en Inde à Kochi. Je suis animateur au service jeunesse à la ville de Trappe et spécialement dans l'espace jeune Anatole France. Voilà.
Merci Mara. Bilal.
Bonjour à tous. Moi c'est Bilal Medintala. Voilà, je suis étudiant en BTS NDRC en alternance. Voilà.
Ok, et on termine avec Yacine.
Moi j'ai 19 ans, je m'appelle Yacine et je suis en deuxième année de droit actuellement.
Ok, merci Yacine. Alors on va commencer avec une première question. Est-ce que vous pourriez me dire, voilà, vous pouvez prendre la parole, hein, celui qui a envie de commencer. Est-ce que vous étiez déjà parti en Inde ou non? Et surtout, vous aviez quelle image de l'Inde avant de partir? Voilà, est-ce que vous vous êtes fait une petite idée de l'Inde par des films ou des lectures ou autre chose? Allez, Louisa.
Donc moi, du coup, je suis jamais allée en Inde avant ce voyage-là. Depuis petite, donc par les films, etc., j'ai toujours une très bonne image de l'Inde, donc les Bollywood, etc. Et en grandissant, cette image s'est dégradée, donc avec... on va dire, enfin, toutes les personnes autour, etc. Même avant de partir, on m'a dit que des mauvaises choses, comme quoi l'Inde, c'était sale, ou encore plein d'autres choses. Enfin, assez négative. Mais j'ai été agréablement surprise en y étant allée, et voilà, et je ne regrette pas du tout.
Donc pour Louisa, c'était la première fois. Ouais. Ensuite, Oriane.
Pour moi aussi, c'était la première fois. Et j'avais un peu l'image de l'Inde, beaucoup qu'on voit dans les médias, qui est assez pauvre... voilà, avec beaucoup de pauvreté, d'enfants qui font la manche dans la rue. Et en fait, c'est un peu l'image du nord de l'Inde. Et nous, on était vraiment dans le sud, donc c'est complètement différent. En fait, ça n'a rien à voir avec cette image.
Il y a une vraie différence entre le nord et le sud.
Ouais. Oui, limite, c'est deux pays différents. Et du coup, nous, on était dans le sud, donc j'ai un peu été marquée par cette différence entre l'image qu'on en avait et en fait ce qu'on a vu sur place, quoi, qui était vraiment super, rien à voir avec l'image qu'on en avait.
Bilal?
Bah comme l'a dit Oriane, hein, c'est vraiment impressionnant la différence qu'il y a entre le sud et le nord. Le nord, c'est vrai, c'est vraiment, en fait, tous les clichés qu'on a sur l'Inde, etc., en fait, sont centrés sur le nord, en fait. Parce que tous les bidonvilles, les affaires de viol qu'on peut entendre dans les médias, la pauvreté, la misère, voilà, en fait, on voit plus ça au nord. Et nous, comme on était au sud, on a vu, si on peut le dire, le bon côté de l'Inde. On a vu sa belle végétation, des personnes aussi qui eux-mêmes nous ont dit que les mentalités ne sont pas les mêmes au nord et au sud. Et franchement, on a été vraiment surpris et ça a été un bon voyage.
Yacine, pour terminer.
Aussi, ce qu'ils ont oublié de rajouter, c'est que nous, on était dans un état l'un des plus riches, le Kerala. Et on voyait pas trop la misère comme nos proches ils le décrivaient. Ils nous disaient franchement, faut faire attention aux maladies, faut faire attention à le système de caste, et les gens ils mouraient dehors et tout. Des choses qu'on n'a pas du tout vues. Et on a profité du paysage et de ce qu'il y avait à voir là-bas.
Bon, un pays, une partie riche du pays en tout cas, Mais quand vous y êtes allé, vous avez quand même vécu des choses. On va y revenir dans quelques instants, notamment dans un orphelinat, que vous avez visité. Louisa, vous levez la main, je vous écoute.
Non, je voulais juste rajouter le fait qu'on était dans une région là, enfin, qui avait le taux d'éducation le plus élevé. Mmh. Donc du coup, c'est une grande différence par rapport aux autres régions et surtout aux écoles aussi qu'on a fréquentées. On a vu la différence.
Alors, une petite information, vous n'étiez pas censé aller en Inde, c'est vous qui me l'avez appris d'ailleurs, là, juste avant de préparer l'émission. Normalement, vous deviez aller au Sri Lanka et ça a vraiment été annulé à la dernière minute à cause des attentats et ils ont trouvé une solution de repli qui était l'Inde. Mais du coup, vous étiez déjà inscrit pour partir au Sri Lanka, vous étiez déçu ou pas, Yacine?
Non, parce que en fait, on avait un temps de préparation avant de partir pour aller au Sri Lanka et ça s'est fait à la dernière minute. À la dernière minute, avec les attentats, on a préféré ne pas prendre le risque de partir. Mais au final, ça change pratiquement rien parce que culturellement, l'Inde et le Sri Lanka sont deux pays proches. Mm-hmm. Et donc, la préparation qu'on a fait pour le Sri Lanka était presque similaire pour l'Inde. Donc, ça n'a pratiquement rien changé.
J'ai pas posé la question à Mara d'ailleurs sur est-ce que lui, il avait aussi une image spécifique de l'Inde. Parce que je comprends de vos réponses que personne n'est jamais allé en Inde. Mara.
Non, moi aussi, je n'ai jamais été en Inde. Mais ils ont résumé ce qu'on pensait tous, parce qu'on a déjà échangé là-dessus. C'est qu'on pensait aussi que c'était vraiment la misère. Mais arrivé sur place, ce n'était pas du tout ce qu'on dit, la télé, les médias, tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est pour ça que je n'interviens pas, parce que je suis d'accord.
Alors justement, on enchaîne cette émission. Je rappelle aux auditrices, aux auditeurs qu'on est avec des jeunes trappistes de 18-25 ans qui sont partis en voyage humanitaire en Inde du 3 au 17 août dernier. Alors vous êtes allé à Kochi, donc dans le sud-ouest de l'Inde. Qu'est-ce que vous y avez fait concrètement à Kochi? Vous y êtes allé pour faire quoi? Qui nous explique ça? Oriane?
Alors on a été dans une école pour faire des animations avec les enfants. Et du coup, on a aussi fait la rénovation de l'école avec, on a repeint les murs et le mobilier scolaire. Et on a aussi fait une fresque géante sur le mur de l'école pour égayer un peu l'école. Et du coup, avec les enfants, on était répartis en différents groupes et on a fait des petites activités manuelles, de la peinture, des bracelets, des petits jeux, voilà. Donc c'était le genre d'activité qu'on faisait avec eux.
Alors ça, c'était pour l'école que vous avez rénovée, mais vous avez un petit peu bougé, je suppose, dans la ville pour aller voir d'autres endroits. Bilal?
Après, oui, on a visité les quartiers de Cochin, et notamment Jutown. On a beaucoup traîné là-bas. C'est une ville qui était peuplée en fait par des Juifs à l'époque. Et il y avait beaucoup de... C'est ça qui était bien aussi à Cochin, c'est que la ville était vraiment pluriculturelle, elle a vraiment beaucoup d'histoire. Et c'est ça qui était vraiment intéressant, parce qu'il y a un musée aussi qui était vraiment super, qui nous expliquait en fait, qui nous montrait des statues, des livres aussi qui dataient de 1500, du 16e siècle. Donc franchement, ça a été une belle expérience par rapport à ça. Et notamment la synagogue, franchement, c'est...
Oui, parce qu'on pense pas, pense pas naturellement tout de suite comme ça,
ouais,
qu'il y ait des synagogues dans le sud de l'Inde.
Ben en fait, Cochin était une ville, en fait, je l'ai appris du gérant du musée. En fait, Cochin était une ville, comme je l'ai dit, pluriculturelle. En fait, il y avait vraiment de toutes les religions. Et c'était ça cette ville qui faisait la différence par rapport à d'autres villes du monde. Parce que, en fait, c'était presque la première ville laïque, en fait. La première ville qui acceptait toutes les religions, et qui ne faisait aucune différence par les croyances, etc. Et ça a été intéressant de savoir ça.
Comment il s'est fait l'accueil sur place, du coup, quand vous arrivez dans le sud de l'Inde, dans le sud-ouest de l'Inde?
Bah, il s'est super bien fait. Mmh. Donc quand on est arrivé, on a eu une équipe qui nous a super bien accueillis, donc dans l'auberge dans laquelle on était. Il y avait Andrew, il y avait Ridji qui était la directrice de cette auberge. Donc elle possède d'autres auberges au Sri Lanka, dans d'autres pays d'Asie. Et on a eu la chance de l'avoir avec nous pendant notre séjour. Et ils nous ont super bien accueillis, ils nous ont organisé des activités à peu près tous les jours, etc. Donc,
Et les habitants, du coup, alors, comment ils vous ont accueilli? Parce que, est-ce qu'ils avaient l'habitude de voir des touristes ou pas du tout? Ou de voir des gens venir, notamment pour participer à des chantiers de volontariat? Yacine?
Les habitants, les locaux, on les voyait pendant notre temps libre. Et on sortait par petits groupes et chacun allait là où il voulait aller. Et je pense que c'est là où on a vraiment découvert la culture indienne. Parce qu'on s'est mélangé à eux, on a vu comment ils faisaient au quotidien. Et franchement, ils étaient ouverts. Il y avait pas de... Ils regardaient pas mal, ils nous prenaient en photo, ils rigolaient avec nous. Ils étaient comme s'ils étaient avec, enfin, entre eux. Et ouais, ils avaient l'habitude aussi parce qu'on était dans un endroit où c'était touristique. Kochi Plage, c'est un endroit où, toute l'année, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour découvrir la ville. Et donc oui, je pense que par rapport à ça, eh ben, ils n'étaient pas choqués de voir des étrangers ou quoi.
Louisa.
Je voulais juste rajouter, comme l'avait dit Bilal, donc il y a un peu toutes les religions là-bas. Et ça qui était intéressant, c'est qu'on a pu parler avec plusieurs personnes, chrétiens, musulmans ou encore bouddhistes, indiens, hindous, pardon. Et puis du coup, voilà, on a eu la chance de s'informer sur plusieurs choses, donc comme par exemple la guerre qui se passe en ce moment au Cachemire. Et donc voilà, par exemple, tous les musulmans en fait qui étaient là-bas, voilà, on savait qu'ils venaient, enfin, pour la plupart du Cachemire. Et c'était intéressant de leur poser des questions par rapport à comment ils le vivaient là-bas ou comment ils vivaient leur religion, etc. Et voilà, c'était ça qui était un peu plus intéressant et enrichissant.
Du coup, vous avez pu avoir des informations sur ce qui se passe au Cachemire par eux, c'est
oui,
ça ?
Oui, voilà, c'est ça. Mmh.
Ouais. Et alors, quel type d'informations ? Bilal ?
Bien, par exemple, moi, j'avais discuté avec un chauffeur de tuk-tuk, voilà, pour vous expliquer un peu ce que c'est qu'un tuk-tuk. C'est un taxi, en fait, mais une voiture vraiment toute petite, voilà, qui nous emmène partout, voilà, où on souhaite, pas très loin, mais bon, voilà. Donc, du coup, le chauffeur de tuk-tuk, voilà, m'a raconté un peu ce qui s'était passé au Cachemire. Et voilà, c'est à peu près...
Parce que pour résumer, le Cachemire, en fait, c'est deux pays, l'Inde, ouais, et le Pakistan, qui convoitent,
c'est
tous
ça,
les deux, voilà, qui prétendent tous les deux, voilà. Et du coup, c'est l'Inde qui a remis la main sur le Cachemire récemment, avec notamment des forces militaires. Et puis, il y a beaucoup de musulmans qui ont fui cette partie du globe. Yacine.
Aussi, je parlais aussi avec un vendeur et il me disait que, en fait, la plupart des habitants du Cachemire, ils se sentent ni pakistanais ni indiens. Ils se sentent vraiment des habitants du Cachemire.
Ouais,
et ils veulent leur indépendance, ils veulent vraiment être en paix et ni avoir affaire avec l'Inde ou le Pakistan. Après, maintenant, aujourd'hui, eh ben, ils vont vers le sud de l'Inde pour des raisons économiques, mais je sais que cette personne à qui j'ai parlé, bah, elle avait laissé toute sa famille pratiquement au nord et il n'avait pas de nouvelles. Et il nous expliquait que c'était horrible, juste pour sortir de chez eux, ils avaient besoin de contacter l'armée indienne pour avoir une autorisation et pour sortir. Mais sinon, sans ça, et bah, s'ils sortent, ils sont tirés dessus.
D'accord.
Donc, ouais, c'est ce qu'il nous expliquait.
D'ailleurs, vous me dites à l'instant, vous parliez avec, comme disait Bilal, avec un chauffeur de tuk-tuk ou avec d'autres personnes. Vous parliez comment ? Ça se faisait comment, la communication ?
En anglais.
Tout en anglais.
Tout en anglais.
Donc il maîtrisait bien l'anglais, c'est ça ?
Ouais, c'est enfin, pas...
Je vous demande pas si vous maîtrisez l'anglais. Peut-être pas, mais est-ce qu'il maîtrisait bien l'anglais ?
Ouais, parce qu'il nous expliquait aussi, il y avait une petite histoire qui nous disait, en fait, chaque état en Inde avait sa propre langue. Et d'un état à un autre, et ben, les habitants, ils ne se comprennent pas du tout. Mm-hmm. Du coup, ils ont deux choix. Soit ils parlent l'anglais, soit ils parlent l'indien. Et la plupart du temps, ils parlent plus anglais que l'indien.
Donc, c'est ce que vous permettez de communiquer avec eux. On peut parler de la période au niveau météorologique dans laquelle vous êtes arrivé. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a joué sur votre séjour, Oriane ?
Oui, on était en pleine période des pluies. Alors, la première semaine, ça a été, on a eu des belles journées. Mais plutôt la deuxième semaine, on a enchaîné les jours de pluie, les jours d'orage. Ce qui nous a un peu limités dans nos activités parce que du coup, les écoles étaient fermées. Donc nous, on a quand même pu continuer à y accéder pour continuer à rénover le mur et le mobilier. Mais oui, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Alors des fois, ça peut être un peu pesant sur le moral aussi, mais ça reste authentique au pays et ça fait partie du voyage aussi. Hein,
quand vous dites
dire.
Beaucoup de pluie, c'est-à-dire il pleut pendant 10 minutes, 15 minutes, une heure ?
Toute la journée.
Ah, toute la journée.
Non, peut-être pas. On a eu des coupures dans la journée, mais ouais, c'était des grosses parties de la journée et puis la nuit aussi. Mais ça faisait partie du paysage. Hein. En même temps, à cette période-là, ça fait partie du pays, de ce qu'on attend à y trouver. Hein.
Louisa ?
Donc oui, comme elle le disait, on a eu de grosses inondations, mais c'est pas ce qui nous a freinés dans nos activités, etc. Bon, aussi par rapport aux activités qu'on à part, mais par rapport à l'école, etc., on continuait quand même à y aller. Ou voilà, on remplaçait nos activités autre que humanitaire par, par les orphelinats ou les écoles, faire des activités, etc. Donc c'était d'autant mieux et surtout qu'on était une bonne équipe. On arrivait à remettre de la bonne humeur entre nous et à pas se laisser abattre par la météo.
Bah justement, racontez-nous, puisque vous avez fait en dehors de cette école d'autres visites, comme vous voulez le dire à l'instant. Qui me raconte la première journée, le premier moment que vous avez passé dans un orphelinat dans cette ville de Cauchy? Ah, ils commencent tous à se gratter, à se tenir là. Qui, Yacine?
Ben, on arrivait tout d'abord dans l'orphelinat des garçons. C'était un grand bâtiment. Moi, personnellement, il ressemblait à un hôpital en France. Ouais. C'était l'équivalent à peu près. Et quand on arrivait, c'était un peu triste. J'avais l'impression, en même temps, il faisait gris dehors, donc je pense que ça jouait aussi. Et on arrivait dans une salle et il y avait trentaine d'enfants, trentaine de garçons. Et ils étaient assis, ils nous regardaient, ils attendaient les activités qu'on allait leur proposer, ce qu'on allait faire avec eux. Et malgré ça, malgré qu'ils aient rien ou qu'ils sont pas de parents, quoi, on voyait qu'entre eux, ils étaient solidaires. Et ça leur permet, je pense, de garder le moral ou de ne pas sombrer dans la mélancolie ou quoi. Bah, comme activité, chaque garçon avait soit une paire de chaussures, soit une feuille blanche. Et dessus, et ben, ils avaient des crayons, des stylos, et ils s'exprimaient complètement. Il n'y avait pas de consignes ou quoi. C'était eux qui faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'était marrant parce que pour moi, ça a fait comme une activité psychologique. Parce qu'il y avait certains garçons qui dégageaient en fait des mâles qu'ils avaient en eux. Et ils le dégageaient à travers la feuille ou quoi. Par exemple, je me rappelle d'un garçon qui m'avait marqué et qui était complètement fan d'un joueur de foot, de Gabriel Jesus.
Un Brésilien,
ouais. Mmh. Et il a dessiné sa célébration avec son doigt comme ça, le truc qui fait Gabriel Jesus. Et il a dessiné sur les deux côtés de la feuille. Et il a essayé de marquer son nom malgré qu'il sache pas écrire. Et ça prouve que ils ont quand même des rêves, ils ont des passions et ils se donnent à fond dedans.
Oriane.
Moi, ce qui m'a marqué, c'était que justement, j'avais pas l'impression de rentrer dans un orphelinat. Et il y avait ce sourire, c'était quand même assez chaleureux, ils nous ont accueillis, il y avait une sorte de chanson qu'ils nous ont fait, je ne sais plus trop, un truc où ils ont tous chanté en même temps. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur en fait, j'avais vraiment pas l'impression de rentrer dans un endroit triste. Et après on était répartis en petits groupes, et on a travaillé avec un artiste indien qui customise en fait des chaussures, et du coup le projet c'était de faire travailler les enfants... pour qu'ils modélisent en fait des petits dessins que l'artiste après allait reproduire sur des chaussures. Et j'ai adoré cette expérience, c'était vraiment enrichissant. C'est ce côté-là où on sent pas de malheur, de misère ou de tristesse, ça enrichit en fait personnellement.
Et qu'est-ce qu'ils vous disaient alors ces enfants-là? Parce que vous avez échangé avec eux, je suppose. Vous avez parlé, vous êtes resté un petit bout de temps pendant que vous faisiez ces activités.
Ils avaient tous un mot à la bouche, c'était Lionel Messi. Ils aimaient tous Lionel Messi.
Après, ce qui les a intrigués aussi, c'était nos origines, d'où on venait, etc. Parce que voilà, on est tous assez différents. Ils étaient des fois étonnés qu'on vienne de France. Plusieurs ne connaissaient pas la France aussi. Donc voilà, c'était surtout origine, etc. Donc on essayait un peu de les informer sur d'où on venait, etc. Sans d'autant en faire un peu trop. Moi, par exemple, je faisais attention à pas ce qu'ils voient mon téléphone ou bien ce que j'avais comme fond d'écran ou quoi pour pas, on va dire, montrer comment on vit en France, etc. Voilà, c'était ma façon de voir les choses, en tout cas, là-bas.
Vous faisiez attention, en tout cas.
Ouais. Ouais.
Alors, parlez-moi, est-ce que, on va faire un petit tour de table aussi, est-ce que vous avez vécu, quel a été votre moment fort du voyage? Quelque chose qui vous a particulièrement marqué? Bon, vous l'avez déjà dit un petit peu, par rapport à cet orphelinat-là, mais voilà, est-ce que vous pourriez détailler quelque chose qui vous a marqué, Louisa?
Alors moi, personnellement, ça a été le premier jour où on allait dans l'orphelinat des filles. Donc déjà, on nous a informés sur le fait que ça allait être des jeunes filles de 5 à 15 ans, il me semble. Et on a été assez étonnés qu'il y avait plusieurs bébés. Donc voilà, c'était des jeunes filles de 10 ans qui s'occupaient des bébés, etc. Donc moi, ça m'a marqué. Et voilà, le moment le plus marquant, en tout cas, ça a été quand j'ai vu une petite orpheline qui était aveugle. Donc voilà, à un moment, on s'est tous levés pour danser. Et puis je l'ai vue assise par terre. J'avais pas compris au début. Ensuite, on m'a informé sur le fait qu'elle était aveugle. Et voilà, je suis allée la voir. Après, j'ai pas réussi à rester dans la salle le premier jour. J'ai craqué. Voilà, ça m'a rendu vraiment triste. Et d'ailleurs, nous tous. Et voilà, du coup, c'était cette petite fille, en tout cas, de qui je me rappellerai et qui m'a marqué pour ce voyage.
Les autres, Yacine ?
Mon moment fort, c'était... c'est un peu marrant. On sortait d'une classe de maternelle et on était dans la cour d'une école du lycée, je pense. Et il y avait un groupe de filles qui est venu me voir. Et ce jour-là, ils m'ont pris pour un Indien, un Malihali, un truc comme ça. Ouais. Et après, c'est vraiment que j'étais de chez elle et ça m'arrivait souvent ça pendant le voyage. On pensait vraiment que j'étais Indien parce que moi, d'origine, je suis marocaine, du sud du Maroc et j'ai une couleur de peau assez foncée. Et après, ces filles-là m'ont retrouvé dans la rue à Cauchy et elles venaient me voir et tout. Et ça aussi, ça prouvait que là-bas, les gens, ils sont ouverts. Et voilà, elle venait, elle rigolait, elle faisait des photos et on s'amusait.
C'est juste qu'elle trouvait que t'étais mignon.
Donc Yacine va nous annoncer qu'il y a un futur mariage.
C'est ça.
Non, mais si j'ai un problème en France, je pourrais refaire ma vie là-bas.
Bilal.
Ben, moi, c'est pareil que Louisa. Hein, la petite fille aveugle, ça m'a vraiment marqué, surtout le voyage. Le fait qu'elle s'amuse, qu'elle sourit, qu'elle joue avec nous malgré qu'elle soit aveugle, ça a été vraiment un moment fort pour moi. Il y avait aussi une petite fille qui m'avait fait un petit Scooby-Doo que j'ai toujours.
Ça existe encore, les Scooby-Doo?
Ouais.
Plusieurs là-bas.
C'est ça. J'ai pas entendu.
On en a fait plusieurs là-bas.
Ouais. Et du coup, le Scooby-Doo qu'elle m'a fait, je l'ai toujours gardé, il est chez moi. Voilà. Après, c'est des petits moments comme ça, simples, mais qui restent gravés dans la tête à jamais.
Oriane.
Oui, il y avait aussi, toujours dans l'orphelinat des filles, il y avait une toute petite qui avait à peu près 3 ans, et du coup, elle ne parlait pas anglais pour le coup. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'elle était vraiment très, très mignonne. Elle était venue, elle m'a fait un câlin. Et en fait, pendant un long moment, elle est venue me faire un câlin. Et c'est là où on se dit qu'il n'y avait pas besoin de langage aussi pour parler. Et il y avait vraiment un échange et un moment qu'on a passé toutes les deux, sans parler. Et c'était vraiment aussi ça qui était touchant et marquant de ce voyage.
Qu'est-ce que ça a changé chez vous de faire ce voyage? C'est Mara qui lève la main tout de suite. Mara, notre animateur.
Non, c'était avant, pour répondre à la dernière question concernant ce qui nous avait marqué là-bas.
Ce qui nous avait marqué, ouais.
Ouais. Encore une fois, ça va être la même chose que les filles, les garçons aussi, par rapport à l'orphelinat. C'est comme ce qu'a dit Oriane, c'est que pendant qu'on était à l'orphelinat, on sentait vraiment que... On avait l'impression d'être à la récréation, à être dans un centre de loisirs, tellement ils étaient joyeux, ils étaient pas tristes malgré leurs difficultés, leurs...
Et puis ils étaient contents de vous voir aussi.
Oui, mais au-delà de ça, c'est qu'ils sont heureux de vivre, en fait. Et ça m'a beaucoup marqué. Que nous, t'as un petit bobo ou t'as perdu quelque chose, t'es pas bien, mais eux, ils ont pas de famille, ils ont pas de parents, mais ça les empêche pas de vivre et de continuer. Et je pense que c'est une morale pour nous, de un. Et de deux, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, mais celle qui m'a plus marqué, c'est... en fait, l'orphelin et la fille, on a été les voir 2 fois. Mais le dernier jour, j'ai mis une demi-heure pour faire partir mes jeunes, pour qu'on reprend les tchouk-tchouk pour aller manger. Et j'avais l'impression que ça faisait 2 semaines qu'on était avec eux, tellement qu'ils étaient bien ensemble, ils discutaient, comme si c'était un... Tu sais, quand tu pars en voyage, tu sais que tu vas partir pendant 1 an, mais la famille n'avait pas te laissé partir, on t'a dit au revoir plusieurs fois. Mmh. Et là, c'était la même chose. Et ce moment-là, il m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et je tenais à le dire.
Alors justement, je repose la question, qu'est-ce que ça a changé chez vous, ce voyage? Est-ce que ça a changé? Bon, peut-être personnellement, s'il y avait des introvertis ou des choses comme ça, est-ce que ça les a changés? Ou bien est-ce que ça vous a donné envie de plus vous engager dans des actions humanitaires? Yacine.
Moi, il y a quelque chose aussi, j'aimerais revenir sur un point, c'est qu'on a vécu ici tous, c'était au début du voyage, on avait, tous les matins on se levait, on allait faire des entraînements de foot avec un club local.
Ouais.
Et ce qui m'a marqué, c'est leur état d'esprit. Parce qu'ils avaient 1 mètre, enfin je... Ouais, c'était un coach, mais je veux dire, comment il leur enseignait, c'était plus un maître qu'un coach. Parce que même avant même la pratique du foot, il leur apprenait d'abord comment se tenir, comment respecter les règles, des choses qu'on ne voit pas ici en France.
Hein? Le respect du coach.
Le respect du coach, ouais, voilà, des valeurs qu'ici en France, on a du mal à faire passer. Et sur le terrain, bah, ils étaient plus forts que nous. Et c'est pour dire que franchement, ils ont une éducation qui m'a choqué la première fois que j'ai vu. Et on a passé un bon moment où il entraînait des petits comme des grands. Et il était tout seul. Et Dreyfus, je crois qu'il s'appelait. Ouais. Et c'était un grand coach. Ouais.
Mara.
Et pour te dire, le respect qu'ils avaient, les jeunes, ceux qui étaient plus petits, ils arrivaient après. Parce que les plus grands, ils commençaient à 5h du matin. Les plus petits, ils arrivaient après. Mais chaque enfant arrivait. Le coach était en plein milieu de terrain, il rentrait dans le terrain, il lui serrait la main, ils sortaient tous dès qu'ils arrivaient pour te dire le respect. Et dès qu'ils commencent à parler, tout le monde écoute et c'était, il y avait un respect qui était formidable.
Ça vous change, Mara, de vos expériences quotidiennes?
Je te dis, ça m'a beaucoup changé. C'est ce que je leur ai dit et le jour de mon anniversaire, parce que j'ai fêté mon anniversaire.
Ah, bon anniversaire.
Ouais, et sincèrement, ça m'a beaucoup changé.
Alors justement, je lui disais, qu'est-ce que ça a changé chez vous peut-être, Oriane?
Moi, faire ce voyage à la rencontre des gens, vraiment être dans du concret, ça a un peu été une révélation pour moi. Enfin, je me suis dit, mais je veux recommencer ce genre d'expérience, peut-être pas forcément en Inde, mais ailleurs. Et voilà, c'est quelque chose que je sais que je referai. Vraiment être confronté à la réalité des pays, à venir avec notre bagage aussi bien émotionnel, qui on est, et aller sur place et s'enrichir de ce qu'ils ont à nous apporter. Franchement, ça a été un peu une révélation pour moi. J'ai envie de revivre ce genre d'expérience.
Bilal ?
Eh bien, pareil. Hein, à mon retour de l'Inde, eh bien, j'ai tout de suite voulu repartir pour aider d'autres personnes, parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais lorsqu'on est dans notre coin en France, etc., on se rend pas compte des problèmes qu'il y a dans d'autres pays. Après, c'est vrai qu'on nous le rabâche souvent dans les médias, etc. Mais pas vraiment pour de guerre, etc. Mais vraiment des soucis que des personnes ont, mais qu'on ne peut pas toujours remarquer. Comme par exemple le manque de matériel, le manque de nourriture aussi, que certains pays peuvent avoir. Et c'est là qu'on se dit que voilà, on ne peut pas rester chez nous à rien faire. Alors que d'autres souffrent. Si on a la possibilité d'aider son prochain, pourquoi ne pas le faire, voilà.
Louisa ?
Du coup, moi, je rejoins Bilal sur ce point-là. En revenant d'Inde, j'ai eu aussi un petit coup de mou. Donc voilà, on a tellement passé en fait 15 jours très forts, donc en émotion, etc. Donc quand on est revenu, c'était assez... ça retombait directement. Et je me suis dit, mais il faut tout de suite que je reparte, en fait. Et voilà, j'espère en tout cas... refaire ce genre de voyage dans le futur. Et pourquoi pas en faire un métier. Donc voilà, malgré que je sois en comptabilité aujourd'hui, j'espère en faire quelque chose plus tard.
Yacine ?
Ouais, et je voulais dire aussi, au-delà du fait qu'on est parti en voyage humanitaire ou quoi, il y avait aussi le groupe qu'on avait. Enfin,
justement, c'était la dernière question. Ah ouais. Mais vas-y, tu me précèdes, vas-y.
En dehors des actes humanitaires qu'on a pu faire, ou alors des personnes qu'on a rencontrées là-bas, il y avait aussi le groupe qu'on avait à la maison, à la Rainbow, comme on l'appelait, la Rainbow House.
La comment ?
La Rainbow.
Ouais, comme arc-en-ciel.
C'est ça. Ouais. Et on a vécu 15 jours ensemble et sans dispute, on a même délaissé un peu nos téléphones, on s'est retrouvés entre nous et on se voyait le soir, on jouait au loup-garou.
Franchement bien le loup-garou.
Sans télé en plus.
Et ouais, voilà, et on a vécu deux anniversaires là-bas où c'est parti en bataille navale. et on s'est bien amusé, je pense.
Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire justement, c'était la dernière question. C'est que là, au moment où on enregistre, là aujourd'hui, vous étiez tous ensemble avec le groupe, vous êtes allés manger ensemble, vous êtes retrouvés. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes raconté un peu les souvenirs du voyage, c'est ça?
On pense à repartir.
c'est vrai, c'est que même si on est sur le coup de l'émotion, sur le coup du retour, mais on compte vraiment le faire, c'est monter une asso et partir faire d'autres voyages humanitaires, mais pas forcément qu'en Inde. Et comme il a dit Yacine, c'est que quand il dit on était un bon groupe, et je pense que il y avait besoin en fait de solidarité, d'entraide entre nous, et c'est ce qu'on a retrouvé, et c'est ce qui nous a permis de passer un bon séjour. Volontariat en Inde. Ne reste que moi, je parlais pas bien anglais et eux, ils m'ont beaucoup aidé, être dans ce sens-là, ils auront pu dire, bah, t'es l'animateur, bah, tu te débrouilles. Mais non, mais justement, et plein de choses qu'on a mis en place pour s'aider mutuellement. Et franchement, je ne regrette pas. Et je vous l'ai déjà dit. Et si c'est à refaire, je referai avec vous.
Merci.
Merci. Non, c'est normal. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci Oriane, Louisa, Yacine, Bilal, accompagné par Mara. Je rappelle donc 14 jeunes trappistes de 18 à 25 ans qui sont partis en voyage humanitaire en Inde du 3 au 17 août dernier, un chantier de volontariat qui a été mis en place par la ville de Trappes. Voilà, vous avez entendu ce que ça a pu leur apporter et puis surtout ce qu'ils vont en faire avec peut-être une association à venir et des vocations qui sont nées pour d'autres. Donc merci d'être venu à Marmite pour nous parler de ça. Mara, un dernier mot.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que sincèrement, ça serait bien d'élargir un peu ce projet humanitaire dans d'autres villes aux alentours de Trappes. Et franchement, ça peut être enrichissant pour les jeunes ou même pour les adultes de faire des voyages humanitaires. C'est toujours enrichissant.
Merci.
Merci à toi. Merci pour ton invitation.
Au revoir.
C'était Micro Ouvert,
présenté par Nouradine Anne.
Une chose à nous dire, c'est simple, le micro est ouvert sur Marmite FM.